Mardi 7 novembre, à partir de 14h à Utopia Bordeaux Rouge, nous avons le plaisir, en nous associant d'ailleurs à différents partenaires, notamment Terre de Légende, Utopia Bordeaux Rouge, Silicium, Toulouse Game Dev et bien évidemment Radio FMR, de faire venir quelqu'un qui est intéressant à notre sens. Il s'agit de Jordan Mechner. Alors, pourquoi Jordan Mechner ? Eh bien, justement, on se disait, est-ce qu'on peut en parler facilement ? Ou est-ce que finalement, le mieux, ce n'est pas de poser la question à quelqu'un qui est un développeur de jeux vidéo, qui l'a croisé, qui connaît un petit peu son histoire ? C'est pour ça que nous recevons maintenant Julien Barde de Toulouse Game Dev. Merci d'être venu.
Pardon, c'est Julien Barbe.
Alors, c'est la meilleure sketch qu'on m'ait fait depuis un bail. Et il n'est pas radiophonique celui-là non plus.
Le mec, il invite un développeur, il ne pense pas à l'appeler Barbe. Mais non, les trois quarts des profs que j'ai eus ont fait la même erreur, donc il n'y a pas de problème.
Julien Barbe, merci beaucoup d'être venu au Theta Lab. Désolé de cette erreur de ma part.
Il n'y a pas de souci, merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est effectivement intéressant de parler de Jordan Mechner en tant que créateur de jeux vidéo. Hein. Tu mentionnais le Toulouse Game Dev, c'est donc une association sur Toulouse qui regroupe les concepteurs, les créateurs de jeux vidéo.
Indépendants
et autres, hein, d'ailleurs.
Il y a quand même
des... pour des studios plus ou moins gros. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gros studios à Toulouse, mais on peut aussi y travailler à distance et puis monter nos propres studios. Et donc, évidemment, Jordan Mechner, en tout cas, de notre point de vue, il est surtout connu comme créateur de jeux vidéo. Toi, tu l'as peut-être connu, je sais que tu as beaucoup parlé de BD comme auteur de bande dessinée. Et c'est également intéressant de parler de ses inspirations. Parce que Jordan Mechner, c'est un auteur presque typique des années 80. Donc on a quelqu'un qui a eu son premier micro-ordinateur quand il était au lycée, à une époque où beaucoup de gens ont eu leur premier micro-ordinateur, donc lui c'était en 79, mais donc fin des années 70, début des années 80, et ben c'est des gens qui ont commencé à bricoler sur ces trucs-là. Alors pour Jordan Mechner, je sais pas exactement comment ça se passait, mais c'est vrai qu'il y a eu toute une génération comme ça de développeurs qui ont commencé évidemment à jouer sur micro. Il y avait en parallèle évidemment des consoles de jeux qui étaient un environnement qui était beaucoup plus fermé, on met la cartouche, on y joue, mais là on pouvait bricoler ses propres jeux, coder des trucs. Vous aviez des magazines qui sortait avec des pages de code écrits, fallait les recopier pour avoir son propre jeu directement dans sa machine. On les recopiait mal, ça faisait des erreurs, fallait les débugger. Et puis là, vous avez deux catégories de personnes. Vous avez le type qui éteint son Amiga et qui va allumer sa NES. Et puis vous avez le type qui se dit « Attends, je comprends pas pourquoi ça marche pas. » Et encore pire, deux semaines plus tard, « Je comprends pas pourquoi ça marche. » Et donc généralement, c'est des gens-là qui finissent... Ce sont des gens qui finissent très mal, c'est-à-dire comme moi, à faire des jeux vidéo.
Je pense pas qu'on en était nombreux à taper des programmes de jeux sur Amiga, mais c'était plus sur Amstrad et Atari.
Oui.
C'est Jordan Mechner, tu en parles, mais on sait toujours pas qui c'est, on sait toujours pas qu'est-ce qu'il a fait.
C'est un game designer américain, il est aussi donc auteur de documentaires et il est également auteur de bandes dessinées. C'est quelqu'un qui a beaucoup de d'inspirations différentes et là encore je rejoins cette vague d'auteurs et notamment beaucoup d'auteurs français. On a parlé de French Touch et j'ai l'impression que Jordan Mechner, pas parce qu'il habite en France aujourd'hui, mais c'est un des auteurs américains qui s'approche le plus d'un auteur de la French Touch vidéoludique dans l'esprit, parce qu'il est allé récupérer des références qui sont aujourd'hui classiques. Hein, en 84, son premier jeu marquant sort qui s'appelle Karateka. Et alors, évidemment, si je vous dis que c'est un jeu d'arts martiaux, bon, déjà, personne va être surpris vu du titre. Mais ce qui va peut-être encore plus, peut-être vous surprendre, c'est que c'était pas du tout un cliché à l'époque. On parle d'un des premiers jeux d'arts martiaux et même un des premiers jeux de combat tout court. Quand on regarde évidemment les graphismes de Karateka, on va pas se mentir, ça a un poil vieilli. N'empêche que les ressources, les références notamment qu'il utilise, elles sont beaucoup plus savantes. Et on a notamment un auteur qui est très inspiré par le cinéma. Et donc on a du Kurosawa, on a aussi des inspirations...
Mais, sauf erreur, il était étudiant de cinéma.
Alors là, tu me poses une colle. Je sais qu'il est allé étudier à Yale après. Pendant le développement de Karateka, il était à Yale. Et c'est vrai qu'on a mentionné, l'Amiga, l'Amstrad, etc. Tout à l'heure, lui, c'est l'Apple II. Donc en 79, il a un Apple II. Il commence à coder dessus. Il va continuer de coder dessus jusque plus tard. Déjà ses premiers tests en matière de développement de jeux, où il va récupérer des jeux qui existent déjà, type Astéroïde ou quoi, faire sa propre version. Et comme on faisait à l'époque, l'époque, hein, c'est-à-dire que il y avait pas Steam, il y avait pas de distribution dématérialisée. Le type, enfin, soit vous aviez des gens qui gravaient plein de disquettes eux-mêmes et qui allaient les poser au magasin informatique du coin en disant bah voilà c'est mon jeu, vous pouvez le vendre. Soit vous avez des gens par exemple comme Jordan Mechner qui contactaient des éditeurs, en l'occurrence Brother Boone, un grand éditeur de l'époque. Hein.
Oui, qui avait fait le premier jeu cinématique d'ailleurs, c'était sur Amiga justement.
Pareil, on va tous les deux sur le bout de la langue, fais voir, on vous la bouche.
Defender of the Crown.
Tu avais, c'était les Lemmings, je crois que c'était aussi, etc. Il y avait Raid on Bungling Bay de Will Wright qui va faire SimCity après, c'est toujours Brother Boone. Ici, là, il envoie donc sa modification d'Astéroïde à Brother Boone, qui leur dit écoute, ouais, c'est cool, on va pas le publier. Tiens, test Choplifter. Donc, Choplifter, jeu d'hélicoptère, mais qui est taillé d'une façon assez particulière. C'est-à-dire que vous avez une série de niveaux et à la fin, vous avez une fin. Alors, faut voir qu'à l'époque, on est encore à la fin de l'âge d'or des jeux d'arcade. Le concept de fin, c'est pas très compatible avec le modèle économique du jeu d'arcade. Donc, on a des high scores, on a des trucs qui ont été introduits, notamment avec Space Invader. Et là, on a quelque chose qui raconte une histoire. Et ça, Mechner, avec sa passion pour le cinéma, ça va l'inspirer. Et pour lui, le jeu vidéo va être d'abord un média narratif pour raconter des histoires. Il y a beaucoup de gens qui se sont inspirés du cinéma pour faire du jeu vidéo, parfois un peu à tort, en mettant plein de cinématiques et en gros en rognant sur l'aspect ludique potentiellement du titre parce qu'eux, ils avaient une histoire linéaire à raconter. Mechner, lui, il prend une partie de ces choses-là en termes de direction artistique. Je parlais de Kurosawa pour Karateka. On va parler de son autre grand jeu tout de suite après. Donc il va faire quelques cinématiques, mais il va également se poser vraiment la question du gameplay, de ce que ça va apporter dans la progression narrative du jeu. Et de son propre aveu, Karateka, c'est d'abord un jeu narratif, un jeu d'aventure où il y a des arts martiaux. C'est pas un jeu de combat, c'est pas un beat'em all, en tout cas pour lui. Il va également être inspiré par le cinéma, et notamment le cinéma d'animation type Disney, etc., pour les techniques qu'il va utiliser dans les créations de ces jeux. Et là encore, on peut rapprocher ça de ce que faisaient les auteurs de la French Touch, les Ulrich, les Chahi, etc. C'est-à-dire que eux avaient des références qui étaient externes aux jeux vidéo. Hein, alors évidemment, en France, on était full métal hurlant, etc. Lui, il va amener ses connaissances et sa passion du cinéma. Notamment, il va, ce pourquoi peut-être il est le plus connu du point de vue technique, animer ses personnages à partir de vidéos qu'il filme lui-même et qu'il va reproduire pixel par pixel, une technique qu'on appelle de la rotoscopie, qui va poser beaucoup de contraintes en matière de gameplay, parce que quand vous avez une animation à l'époque très très détaillée sur Karateka, mais surtout son jeu suivant qui est le plus connu, qui est Prince of Persia, qui va être sortir en 89, vous vous retrouvez avec des contraintes parce que pour passer d'une animation de course qui est très très fluide, très détaillée à une animation de saut, on ne peut pas casser l'animation. Et donc pour tous ceux qui ont joué à Prince of Persia, en tout cas le jeu d'époque, vous vous en rappelez, lorsque vous avez un sol avec des dalles, pour pouvoir sauter après la dalle numéro 5, il faut appuyer sur le bouton pendant la dalle numéro 4. Pour que le cycle d'animation se termine, votre personnage finit de faire son pas, puis arrive à sauter. C'est une contrainte. Là encore, on peut rapprocher ça de la French Touch où parfois les gameplays n'étaient pas très approchables. Mais voilà, ça va être c'est les deux jeux qui vont vraiment le faire connaître. Il publie Karateka, il doit avoir 25 ans, il est encore à Yale. Il continue sur Apple II, même si à l'époque, loin de moi l'idée.
C'était sorti en 87, donc c'était vraiment...
Karateka, c'est 84. Ouais, et Prince of Persia, 89. Donc, à l'époque, 89...
C'était 10 ans après, 12 ans quasiment après la sortie de l'Apple II. Hein. C'était ça, mort.
On critique pas la machine elle-même, mais c'est dans une industrie qui évolue très, très vite. Moi, j'ai coutume de dire à mes élèves, je suis prof de game design aussi, quand on n'a qu'un marteau, tout ressemble à un clou. Ça, c'est une phrase d'Abraham Maslow qui marche très bien et surtout qui devrait être, je pense, enseignée dans beaucoup d'écoles de jeux vidéo ou de technique, c'est-à-dire que et qui marchait très aussi bien avec l'Apple II en 89 qu'avec le Flash en 2017. Si la techno que vous connaissez, elle est peut-être un peu datée, il y a plein de défauts, mais c'est la techno que vous connaissez. Faites des jeux là-dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est la première question que posent les gens sur les forums pour faire des jeux vidéo, c'est quel est le meilleur langage. Il n'y a pas de meilleur, en fait. Si tu connais un truc, fais-le. L'important, c'est de créer. Et donc, Jordan Mechner va continuer cette création-là. Et cette hybridation intéressante avec des médias linéaires va l'amener notamment à, ça y est, j'ai pas le nom, mais à son adaptation du Crime de l'Orient Express.
Oui, pardon, je l'ai sous les yeux, The Last Express.
The Last Express, voilà. Ouais. Et là encore, c'est intéressant parce qu'on a des scènes qui sont filmées, redessinées, et du coup, une utilisation du média linéaire qui est très intéressante dans un média interactif comme le jeu vidéo, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver comme sur une scène, avec des personnages bah, qui discutent entre eux, qui parlent, etc. Et le personnage joueur qui est posé au milieu et doit essayer de suivre les événements. En d'autres termes, il peut y avoir dans The Last Express, qui est donc, comme vous l'avez deviné, un jeu d'enquête, eh bien, une conversation fondamentale pour la compréhension de l'histoire que vous loupez parce qu'elle elle se déroule toujours le jeudi à 16h et à ce moment-là, vous avez décidé que bah, vous étiez dans une autre cabine du train, quoi. Voilà.
Mmh. Ouais, extrêmement intéressant. Il y a plein d'autres choses. Donc, il a fait deux documentaires. Je crois qu'il y en a un qui est allé jusqu'aux Oscars, d'après ce que j'ai compris.
Oui, c'est possible. J'avoue que bon, je connais surtout la partie jeux vidéo.
Waiting for Dark et Chavan Ravine, A Los Angeles Story. Il a été aussi producteur d'une adaptation d'un de ses jeux. Mais bon, ça, c'est pas histoire de rigoler. Et on le reçoit, en fait, entre autres, pour son autobiographie, mais pas que, Ripley, qui est sorti aux éditions Delcourt, où en fait, ben, il parle non seulement de lui-même, mais il parle de lui-même à différentes époques, c'est-à-dire justement à la création de ses premiers jeux vidéo ou de son installation à Montpellier, mais il parle aussi de ses parents et grands-parents et arrière-grands-parents. Et c'est absolument touchant, c'est absolument incroyable. On se rend compte qu'il était dans une famille où quand même on aime bien essayer les jeux et trucs comme ça. Et en même temps, une famille qui est marquée par l'histoire, entre autres justement parce que tout simplement, bah, ils sont juifs et ils ont le malheur d'être en Autriche au moment de l'Anschluss, au moment où Hitler va prendre le contrôle de ce pays. C'est peut-être ça qui fait qu'il a choisi un film qui devrait pas mal plaire. Donc, normalement, il présentera et on diffusera donc à l'Utopia le film Casablanca, le film de Michael Curtis, immense classique avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, qui a été tourné en 1942. Hein. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un film d'actualité au moment où il était sorti, justement par rapport à ce qui se passait. Aussi, qui parle un petit peu des relations difficiles qu'a De Gaulle avec les États-Unis et la relation ambiguë qu'a les États-Unis avec le général Pétain. C'est une journée où il viendra pour des dédicaces, il viendra pour discuter avec son public. On l'interviewera d'ailleurs en commun, nous trois. On va essayer de préparer ça proprement. Il sera enregistré en public et donc on finira avec cette soirée cinéma. Et après, on pourra toujours dialoguer avec lui. Les différents bouquins qu'il a écrits seront en vente. Il y a notamment donc Ripley, son autobiographie en bande dessinée. Liberté, tome 1, qui vient de sortir chez Delcourt et donc dont il a réalisé le scénario. Templier chez Aquileos. Monte Cristo dans la collection Comics Bureau chez Glénat. Et il a fait aussi des making-of de ses jeux. Et notamment, il raconte l'histoire de la création de Prince of Persia. La traduction française est sortie chez Third Edition.
Oui, si ça vous intéresse, d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a aussi un documentaire sur la création de Karateka. C'est assez rare d'avoir des genres de making-of de jeux comme ça. Mais voilà, là, on a quelqu'un qui a sorti des jeux très populaires assez tôt dans sa carrière et qui a eu le temps d'en voir les effets et de gérer notamment cet héritage. Tu parlais de l'adaptation, oui, de Prince of Persia au cinéma. Il a été également consultant pour, entre guillemets, l'adaptation de son jeu en jeu, c'est-à-dire Sands of Time par Ubisoft. Lui, il a été assez impliqué dans ce truc-là, à titre honorifique, certes, mais je pense que c'est quelqu'un qui s'est vraiment intéressé. Et c'est d'ailleurs marrant de voir comment Sands of Time, bien des années plus tard, là encore, avec quelques innovations en matière d'animation, vraiment en référence au premier, quoi.
Julien Barbe, merci beaucoup.
Merci à vous.
De ce côté-là. C'est toi qui as proposé, en plus, du coup, la thématique. Ça va être, en fait, en mouvement. Et je trouve que c'est très, très bien choisi, puisque, comme tu l'as expliqué, il y a Rotoscopie. Il y a aussi l'histoire de sa famille qui n'arrête pas de migrer, dans un sens comme dans l'autre. Et j'ai vu plusieurs interviews de lui. Ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'on rêvait de l'avoir en interview. Là, on s'est rendu compte que il n'était pas invité à Toulouse pour son autobiographie. C'est pour ça qu'on a pris l'initiative de contacter plusieurs partenaires pour cela. Donc, je remercie infiniment nos amis de Terre de Légende, d'Utopia de Bordeaux Rouge, Silicium et donc Toulouse Game Dev. On s'est associé, on a essayé de faire ça d'une manière intelligente. Il semble être plutôt satisfait en avance de phase pour ce programme. Donc ce sera mardi 7 novembre. L'accès sera gratuit, sauf pour la projection cinéma, bien évidemment. Et donc ce sera toute l'après-midi du mardi 7. Désolé, hein, je sais, c'est pas le week-end et tout ça, mais ce sera l'occasion. Et de toute façon, l'interview sera enregistrée, diffusée ultérieurement sur différents cadeaux. Julien Barbe, merci beaucoup.
Merci, à bientôt.